À midi et demi sur France Culture, le journal est présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. L'Iran arbitre les élégances politiques irakiennes depuis la chute du régime de Saddam Hussein en 2003 et plus que jamais aujourd'hui. Le Parlement se réunit en effet à Bagdad en pleine crise ouverte dans le sud chiite. Explication de Christian Chesneau. Et pourquoi ne pas intervenir militairement en Venezuela pour renverser le gouvernement de Nicolas Maduro? C'est le président de l'Organisation des États d'Amérique qui pose la question. Décryptage de Valérie Crovin. Le typhon qui s'abat sur les Philippines prendrait le chemin de la Chine. Il aurait touché des millions d'habitants du nord de l'archipel, des populations pauvres. Clotilde Ravel a joint à Manille le coordinateur de l'ONG CARE. Les populismes enflent et surplombent les débats en Europe. Quelle gauche y opposer? C'est un débat qui aura lieu cet après-midi à la fête de l'UMA. Sur l'estrade, Benoît Hamon et Yanis Varoufakis, l'ex-ministre grec des Finances, étaient l'invité des matins du samedi. Extrait dans cette édition de l'entretien qu'il a donné à Caroline Brouet. Avant-hier encore, l'actuel Premier ministre irakien annonçait des travaux publics de grande envergure, travaux censés régler la crise qui embrase Bassora et les environs de la grande ville du sud chiite, crise ouverte depuis plus d'un mois. Ce sera peut-être la dernière promesse d'Haïder al-Abadi. C'est aujourd'hui que le Parlement irakien se réunit à Bagdad pour élire son président, préalable indispensable à la formation du prochain gouvernement. Cette étape politique déterminante nous invite de nouveau à mesurer ainsi qu'à caractériser l'influence de Téhéran dans la vie politique irakienne. Christian Chesneau.
Ce sont deux blocs qui s'affrontent pour le pouvoir. Pro-iraniens et nationalistes se disputent la présidence du Parlement et la nomination du Premier ministre. Dans ce bras de fer, les clivages communautaires sont chamboulés, analyse Houcham Daoud, chercheur au CNRS.
Tout le camp irakien il se trouve divisé. Une partie font d'allégeance à l'Iran et contre toute attente, non seulement des chiites, mais il y a des sunnites pro-iraniens, il y a des kurdes pro-iraniens, il y a de ceux et celles qui étaient jusqu'à hier pro-américains qu'ils deviennent pro-iraniens. Et de l'autre côté, aussi on voit de plus en plus de gens, ils disent, bah, écoutez, à travers notre alliance avec les États-Unis d'Amérique de Trump, on peut affirmer davantage la souveraineté, l'identité irakienne.
L'Iran dispose de nombreux relais d'influence chez son voisin, comme la milice de la mobilisation populaire, Hashd al-Shaabi, un allié de poids pour Téhéran, dans l'appareil d'État irakien, poursuit Houcham Daoud.
Hashd al-Shaabi a été officialisé. On le considère comme une force légale. Seulement, le commandement sur le terrain, ils sont très fidèles à la ligne de milices chiites qui sont pro-iraniens.
Mais l'influence de Téhéran a aussi ses limites. L'incendie du consulat iranien de Bassora par des manifestants il y a quelques jours prouve que le nationalisme irakien reste toujours vivace, même en plein cœur du pays chiite.
Conflit au sommet de l'État en Tunisie. Le Premier ministre Youssef Chahed fait face depuis des mois à une forte opposition émanant d'une faction de son propre parti, Nidad Tounes, mené par Rafed Kaïd Essebsi, le fils du président tunisien, classe politique paralysée en pleine crise sociale. Un hélicoptère militaire afghan transportant armes et munitions a explosé et pris feu lors d'un atterrissage d'urgence dans l'ouest de l'Afghanistan. 4 morts, dont le pilote. Le porte-parole des talibans affirme que des combattants ont abattu, je cite, l'hélicoptère ennemi. Le président rwandais Paul Kagame libère 2000 prisonniers, parmi lesquels une des principales figures de l'opposition, Victoire Ingabire. À sa sortie de prison, cette femme a déclaré « J'espère que cela marque le début de l'ouverture de l'espace politique au Rwanda ». De redoutables rafales de vent à la pointe du jour dans la province de Cagayan, sur l'île principale de Luzon, au nord de l'archipel des Philippines. Ce sont là les premières manifestations d'un super typhon, rafale à plus de 200 km/h, inondations et glissements de terrain. Selon les autorités de Manille, un quart des 4,2 millions de personnes touchées vivent dans la pauvreté. Clotilde Ravel a joint à Manille le directeur de l'ONG CARE, David Kajvili, qui supervise les équipes à pied d'œuvre.
D'après nos informations, le typhon a fait quelques dégâts en zone urbaine, sur des bâtiments et des immeubles, mais rien de trop important. Par contre, nous n'avons pas d'informations en ce qui concerne les zones rurales. Certaines de ces zones sont inaccessibles car les routes sont bloquées à cause des glissements de terrain. 3 personnes sont mortes dans l'une des zones touchées. Mais les évacuations ont tout de même aidé à réduire le nombre de victimes. Mais nos équipes sont mobilisées sur le terrain. Elles sont sur la côte et dans certaines zones rurales pour évaluer les dommages. Nous sommes prêts pour apporter l'aide d'urgence pour reconstruire les logements, soigner les blessés. Mais le plus dur et le plus important, c'est aussi d'aider les gens à se remettre de la catastrophe, à se reconstruire. Les tempêtes comme celle-ci détruisent bien sûr les maisons, mais surtout la vie des gens. À présent, on dirait que la tempête s'est calmée après le passage de ce matin. Nous espérons que les dommages seront moins importants que ceux du super typhon qui a eu lieu en 2013. Le typhon a pratiquement passé les Philippines et il est maintenant en route vers la Chine.
David Gachvili joint à Manny le directeur de l'ONG CARE. Les villes côtières de Caroline du Nord sont toujours en alerte. Plusieurs décès d'ores et déjà à déplorer, ainsi que des dizaines d'Américains piégés par l'ouragan Florence, rétrogradés en tempête tropicale, menace persistante pendant plusieurs jours. C'est de Chine, où il effectue une visite de 4 jours, que le président vénézuélien Nicolas Maduro a appris des intentions malveillantes à l'égard de son régime du secrétaire général de l'Organisation des États d'Amérique, Luis Almagro, n'exclut pas une intervention militaire de nature à renverser le gouvernement de Caracas. À l'origine, dit-il, de tous les maux endurés par la population. Bonjour Valérie Crevin.
Bonjour.
Valérie, comment comprendre cette déclaration de Luis Almagro ?
C'est une véritable charge anti-Maduro auquel s'est livré Luis Almagro. L'Uruguayen achevait une visite de 3 jours en Colombie pour se rendre compte de la vague migratoire qui touche actuellement le Venezuela, étranglé par une crise économique sans précédent. Le pays connaît une inflation galopante. Il manque de tout, des médicaments, mais aussi des différents produits de consommation courante. Plus +1,6 million personnes ont fui dans les pays limitrophes depuis 2015 et notamment en Colombie. Pour le secrétaire général de l'Organisation des États américains qui regroupe 35 pays et promeut les droits de l'homme, la sécurité et le développement, il n'y a qu'un seul responsable de cette situation, c'est Nicolas Maduro qui refuse de recevoir une aide humanitaire. Et vous allez l'entendre, Luis Almagro ne mâche pas ses mots.
Le plus important, c'est la douleur du peuple vénézuélien et sa souffrance. C'est le peuple vénézuélien qui a payé le prix le plus élevé pour retrouver sa liberté, sa démocratie et ne les a pas encore retrouvés. La communauté internationale doit définitivement trouver une réponse. La communauté internationale est responsable et ne peut pas autoriser une dictature au Venezuela. Une dictature qui déstabilise toute la région à partir du narcotrafic, à partir d'une profonde crise humanitaire qu'elle a créée. Un peuple vénézuélien qui est aujourd'hui victime de la répression, mais une répression différente des autres dictatures vécues sur le continent.
Et la falta de medicamentos como instrumentos represivos.
Dans ce cas, c'est la misère et la faim qui sont utilisés comme instruments répressifs pour imposer une volonté politique au peuple. C'est inadmissible. On n'a jamais vu un gouvernement aussi immoral dans le monde. C'est inadmissible.
Voilà, et ce n'est pas la première fois que Luis Almagro s'en prend vertement au président du Venezuela. Dans une lettre qu'il lui avait adressée en mai dernier, il l'avait qualifié de dictateur en herbe et de traître.
Merci à vous, Valérie Crevin. Houleuse la séance de nuit à l'Assemblée nationale. Sur les pupitres, une nouvelle lecture du projet de loi agriculture et alimentation. Au petit matin, les députés, moins de 80 à l'appel, ont de nouveau rejeté l'ensemble des amendements visant à graver dans le texte l'engagement présidentiel d'interdire le glyphosate au plus tard dans 3 ans. Il y a nécessité d'augmenter les minima sociaux, selon Laurent Berger, sans quoi, ajoute le leader de la CFDT, sans quoi on ne pourra pas s'en sortir sur la pauvreté. Rupture consommée entre la France insoumise et le Parti communiste en vue des élections européennes. Ainsi, les troupes de Jean-Luc Mélenchon ne fouleront-elles pas le sol chahuté de la fête de l'humanité ? Entre autres pommes de discorde, les ambiguïtés que prêtent certains hiérarques du PC à des figures de la France insoumise sur l'accueil des réfugiés. André Chassaigne, député communiste du Puy-de-Dôme, lance « Moi, ce que je porte ». C'est l'accueil des immigrés, fin de citation. Quelle ligne tenir à gauche face à ces postures, approches et préconisations en pleine montée du populisme ? Pourquoi ont-ils pris tant d'embonpoint ces populismes en Europe ? Élément de réponse avec l'invité des matins du samedi, l'ex-ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, avec Caroline Bourri.
Nous n'avons pas réussi pour l'instant Regarder les gens dans les yeux, des gens qui sont inquiets pour leurs enfants, comment mettre de la nourriture sur la table, inquiets du fait que les hôpitaux ne pourront pas leur fournir les traitements nécessaires. On n'a pas réussi à les regarder dans les yeux et dire, voilà ce qu'on peut faire demain matin en utilisant les institutions existantes, si vous dites aux gens, comme la gauche le dit d'habitude. On a créé le socialisme et tout sera fantastique. Les gens décrochent. Mais si vous leur dites, on a une banque d'investissement européenne, avec ses règles, une banque centrale, avec ses règles, un mécanisme de stabilité, on peut redéployer cela avec leurs propres règles, demain matin, pas dans 50 ans. Et ça va changer votre vie de façon A, B, C ou D. Et soudain, ils vont se rendre compte qu'ils font face à un mouvement politique qui a de la rationalité,
And a social outlook, an ecological outlook,
et une vision sociale qui a du sens. C'est la seule réponse au racisme et pour le désespoir.
Yanis Varoufakis débattra cet après-midi à la Fête de l'Humanité avec son acolyte français Benoît Hamon. Ils ont tous deux créé une structure en vue des élections européennes baptisée Diem25, première liste pan-européenne transnationale. Classe moyenne et populaire pénalisée, inégalités creusées, besoin de politiques économiques plus protectrices. 10 ans après Lehman Brothers, Yanis Varoufakis estime que l'on n'est pas sorti de la crise. Voilà qui mérite d'y revenir à cette déflagration économique.
La bulle économique, Marie Viennot.
Dans la nuit du 14 au 15 septembre, il y a 10 ans, la banque Lehman Brothers se déclarait en faillite. Au quatrième étage de la banque, dans la salle de marché pareille à celle dont vous entendez l'ambiance, là où s'achetaient et se vendaient les produits financiers qui auront causé sa chute, le bruit cessa et l'économie mondiale plongea dans une crise semblable à celle de 1929. Comment en est-on arrivé là ? Depuis 2008, beaucoup a été dit à ce sujet, mais aujourd'hui de nouvelles histoires, de nouveaux narratifs, comme on dit maintenant, émergent.
La crise n'a pas eu lieu parce qu'on a trop prêté à des gens pauvres. Avec leur recul, je peux vous l'assurer.
Tina Tambauer est analyste du marché immobilier à Phoenix, en Arizona. On a beaucoup dit de cette crise qu'elle avait été causée par les crédits immobiliers faits à des ménages américains trop pauvres pour devenir propriétaires. Pauvre n'est pas le bon terme. Le vrai terme, vous le connaissez, c'est subprime. Un mot intraduisible car il n'a pas d'équivalent chez nous. Un crédit subprime, c'est un crédit fait à un ménage dont l'histoire financière, le credit score en anglais, n'est pas bon. Soit parce que ce ménage est jeune et n'a pas encore d'histoire financière, soit parce qu'il a déjà fait défaut sur des crédits ou remboursé en retard. Les crédits subprime, il y en a toujours et pour tout aux États-Unis. Voitures, cartes de crédit, prêts étudiants, leur particularité, c'est leur taux d'intérêt bien plus élevé que la moyenne. Les crédits immobiliers subprime ont, c'est vrai, beaucoup augmenté dans la période pré-crise. De 5% en 2000, ils sont passés à 20% en 2006. C'était un objectif fédéral formalisé dans une loi nommée American Dream Act, la loi du rêve américain, votée en 2003 dans les années Bush. L'objectif était louable, faciliter l'accès à la propriété, moins louable sur les moyens employés pour l'atteindre. Moyens qui se résument à un seul mot, dérégulation. La loi du rêve américain a institué une surveillance quasi nulle sur ceux qui prêtaient, les conditions dans lesquelles ils le faisaient et le profil des acquéreurs. Ainsi naquirent les prêts alternatifs, exotiques et même sans documents. Mais les ménages américains modestes ne furent pas les seuls à en bénéficier. Le manque de contrôle a aussi beaucoup arrangé ceux qui voulaient profiter de la bulle immobilière, acheter et revendre plus cher, témoigne aujourd'hui Tina Tambauer.
Notre crise a été causée par ceux qui n'avaient pas besoin de crédit immobilier et ont gagné des fortunes dans cette période. Ils pouvaient emprunter sans apport et ont acheté 5, 6, 15, 20 maisons. La crise ne les a pas affectés puisqu'ils n'avaient pas mis un sou dans ces maisons et qu'ils n'y vivaient pas. Et quand elles ont été saisies, ils avaient déjà gagné beaucoup d'argent.
Quel fut l'impact de ces investisseurs spéculateurs sur la crise ? Une récente étude américaine a fait le calcul et trouvé qu'en 2006, ces investisseurs représentaient 15% des défauts immobiliers, alors qu'en 2009, ils représentaient 40%. Autrement dit, ceux qui n'ont pas réussi à rembourser leurs crédits immobiliers ne sont pas que les ménages subprime, et pourtant, c'est cette histoire qui a eu la primeur. Pour aller plus loin encore, on peut se demander pourquoi tant de ménages américains sont subprime. N'est-ce pas parce que les salaires ne permettent plus de vivre? Le crédit serait-il devenu la béquille indispensable à la paix sociale? La déconnexion grandissante entre salaire et productivité aux États-Unis, la captation de la valeur créée dans les entreprises par le capital financier sont des éléments d'explication régulièrement documentés aussi. Mais ceci est une autre histoire. C'est même une ongoing story, une histoire toujours d'actualité. Les raisons profondes qui ont causé la grande crise financière sont encore là, et bien là.
Merci à vous Marie Viennot. La bulle économique à retrouver sur franceculture.fr. Les très grandes lignes météo de cet après-midi, temps ensoleillé sur la majeure partie du pays. Nuageux près de la Manche. Cette édition a été préparée avec M. Le Chili à la technique Anthony Tomasso.